Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Notre mission aujourd'hui, c'est de vraiment décortiquer un document fascinant.
Bonjour à tous. Et ouais, c'est un document assez dense qu'on a là.
Je suis ravie de m'y attaquer avec toi, en tout cas. On va analyser le 16e cours d'histoire de l'Ancien Testament du professeur Robert Vanois. Et honnêtement, c'est un voyage assez vertigineux.
C'est le mot, ouais.
Parce qu'on va disséquer les parallèles vraiment troublants entre le récit biblique du déluge, donc Genèse 6 à 9, et des mythes mésopotamiens hyper anciens.
Ouais, des textes qui datent de plusieurs millénaires.
Et après, on va voir comment le monde d'après le déluge a carrément posé les bases de nos lois fondamentales et même de conflits historiques majeurs. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on pose un peu le décor pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y, je t'écoute.
Imaginons un instant qu'une équipe d'archéologues découvre les plans détaillés d'un immense navire de sauvetage.
D'accord.
Une sorte d'arche, tu vois, conçue pour survivre littéralement à la fin du monde. Bah, ce qui est dingue, c'est qu'ils ne trouvent pas ce plan à un seul endroit.
Non, ils le trouvent un peu partout.
Exactement. Ils trouvent ce même squelette narratif enfoui dans les ruines de civilisations antiques qui sont totalement différentes et séparées par des centaines de kilomètres.
Bah, c'est un scénario de rêve pour n'importe quel historien de l'Antiquité. Et en fait, c'est exactement la réalité face à laquelle on se trouve avec ces récits du Grand Déluge.
C'est fou quand on y pense.
C'est fascinant, ouais. On a une architecture narrative qui est presque identique. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, quand on commence à regarder à l'intérieur de ces vaisseaux, la philosophie, le but du voyage, et même l'identité des passagers, bah, ça change du tout au tout.
C'est pas du tout la même croisière, quoi.
Ah non, pas du tout. Et pour démêler tout ça, le professeur Vanois, dans son cours, nous fait croiser des sources majeures. Il prend des textes épiques antiques, genre l'épopée de Gilgamesh, le mythe de Traasis ou la version sumérienne de Zizudra.
Ouais, Zizudra, c'est ça.
Et il passe tout ça au crible de grands chercheurs comme Alexander Heidel, Albert Klee ou encore Gerhard Van Rad.
Alors justement, plongeons dans ces fameux vaisseaux, parce que quand on met les textes côte à côte, le contraste est saisissant. Déjà, il y a la question des noms des personnages centraux.
Ah oui, et les noms, c'est un point clé.
Côté mésopotamien, on a des héros avec des noms comme Ziusudra, Utnapishtim...
Atraasis.
Voilà, Atraasis. Et côté biblique, on a Noé. J'ai beau chercher, je veux dire, je ne vois absolument aucun lien étymologique entre ces noms. Est-ce qu'on a au moins une racine commune, un truc caché
Non, absolument aucune. Linguistiquement parlant, ces noms n'ont rien à voir. Mais vraiment rien.
D'accord, donc on part sur des bases complètement différentes.
C'est ça. Et cette rupture, elle s'étend bien au-delà de l'étymologie. Elle touche au cœur même de l'opération de sauvetage. Si tu prends la liste des passagers, par exemple.
Ouais, regardons qui monte à bord. Dans le récit biblique, qui est-ce qu'on a ? Un groupe extrêmement restreint. Noé, sa femme, ses trois fils et leur femme.
8 personnes, pas une de plus.
C'est très intime. C'est vraiment la cellule familiale de base. Une question de préservation d'une lignée spécifique. Mais dans les autres versions, enfin si je lis bien mes notes sur l'épopée de Gilgamesh, c'est très différent.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Le héros, Utnapishtim, il fait monter toute sa famille élargie, ses proches, mais aussi toute une guilde d'artisans, hein. Et même un batelier pour naviguer. On dirait presque qu'il évacue un village entier.
C'était exactement ça. Et dans la version sumérienne, avec Ziusudra, il y ajoute même tous ses amis proches.
Ah oui, carrément les potes, hein.
Ouais, la logique mésopotamienne, en fait, c'est de préserver une micro-société, avec toutes ses compétences techniques, ses liens sociaux. Alors que la Genèse se concentre sur un nouveau départ moral à travers une seule famille isolée qui est considérée juste.
C'est une distinction philosophique énorme.
Ah oui, total.
Mais je crois que le détail sur lequel je bloque le plus, et tu sais, c'est souvent là que le diable se cache, c'est l'histoire des oiseaux.
Ah, l'incident des oiseaux, bien sûr.
À la fin du déluge, le héros doit relâcher des oiseaux pour vérifier si la terre est sèche. Et c'est là que les chercheurs s'emballent un peu, non ?
Et pour cause, les textes mésopotamiens mentionnent 3 lâchers d'oiseaux, alors que la Bible en mentionne 4. Ziusudra, par exemple, il lâche plusieurs oiseaux en même temps.
Genre en volée.
Ouais, une volée. Mais la comparaison la plus fascinante, c'est vraiment entre Utnapishtim et Noé. Parce qu'ils lâchent tous les deux un oiseau à la fois, mais dans un ordre complètement différent.
Ah, attends, rappelle-moi l'ordre.
Utnapishtim, il lâche d'abord une colombe, ensuite une hirondelle, et enfin un corbeau. Noé, lui, c'est l'inverse. Il commence par un corbeau, puis il lâche des colombes.
Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Pourquoi est-ce que l'ordre serait si important ? Je veux dire, un oiseau est un oiseau, non ? Le but, c'est juste de voir s'il revient avec une branche ou s'il trouve un coin sec pour se poser.
C'est là que le chercheur Alexander Heidel intervient. Dans son analyse, il souligne qu'Utnapishtim commet ce qu'il appelle une erreur de logique fondamentale.
Une erreur de logique, comment ça?
Ben, regarde le corbeau. C'est un oiseau robuste, un charognard. Il est capable de se nourrir de carcasses flottantes, de survivre dans des conditions extrêmement dures.
Ah, d'accord.
Alors que la colombe et l'hirondelle, elles, se nourrissent dans les vallées. Elles sont beaucoup plus fragiles.
Oh, je crois que j'ai saisi le truc. Si la terre est encore un bourbier toxique et dévasté, la colombe, bah, elle va mourir ou revenir immédiatement terrifiée.
C'est ça.
Le corbeau, lui, il va s'en sortir très bien au milieu du chaos. En fait, c'est comme dans l'exploration spatiale moderne.
L'exploration spatiale. Tu vas chercher loin, là.
Mais si, écoute, avant d'envoyer des astronautes humains, qui sont très fragiles et ont besoin d'un environnement parfait, qu'est-ce qu'on fait? On envoie d'abord une sonde blindée, un rover, pour tester l'atmosphère.
Ah, oui, je vois tout à fait l'image.
Donc, l'approche de Noé d'envoyer le corbeau en premier, c'est la sonde spatiale. C'est beaucoup plus logique en termes de survie.
Exactement. Heidel montre que le récit biblique, malgré ses éléments surnaturels, maintient une cohérence interne très pragmatique sur ce détail précis.
C'est super intéressant. Mais du coup, ça soulève une question inévitable. Si le squelette de l'histoire est partagé par toutes ces cultures, mais que la chair, les détails, la logique, le sens profond, et ces différentes, comment on explique ces parallèles?
Ah, la fameuse question de l'origine.
Ouais, est-ce qu'on sait qui a copié sur qui, en fait, hein?
Pendant très longtemps, l'approche académique dominante, c'était la théorie de l'emprunt. Le simple copier-coller culturel, si tu veux.
Basé sur quoi?
Sur la chronologie archéologique. Les tablettes mésopotamiennes qu'on a retrouvées, elles datent d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Le texte biblique, lui, si on le lit à l'époque de Moïse, il daterait plutôt de 1200 à 1400 avant Jésus-Christ.
Ok, donc mathématiquement?
Mathématiquement, serrant, on dit. C'est simple, les Babyloniens ont écrit l'histoire en premier. Les Hébreux l'ont lu plus tard, l'ont emprunté et l'ont expurgé de son polythéisme.
Ça paraît logique sur le papier, mais j'imagine que c'est pas si simple.
Non, c'est jamais si simple. C'est là qu'Albert Clay, un autre spécialiste cité dans le cours, vient bousculer un peu ce consensus. Dans son ouvrage sur l'origine des traditions bibliques, il propose l'idée d'une origine proto-sémitique.
C'est-à-dire ?
Selon lui, l'épopée de Gilgamesh n'est pas une création babylonienne pure. Ce serait probablement une légende amoréenne à l'origine, qui a été ensuite, je cite, « acadianisée ».
Pause. Acadianisée.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux de notre auditeur qui ne sont pas archéologues? On parle d'une simple traduction d'une langue à une autre ou c'est genre un reboot culturel complet?
Très bonne question. C'est plutôt un reboot culturel. Les Amoréens, c'était un peuple sémitique. Quand leur légende est arrivée en Mésopotamie, la culture dominante, qui parlait acadien, se l'est appropriée.
Ils l'ont adaptée à leur sauce?
Exactement. Ils ne se sont pas contentés de la traduire, ils l'ont remodelée pour l'intégrer à leur propre panthéon de dieux, à leur géographie, à leur vision du monde. Et Clay explique un truc fondamental. Ce n'est pas parce que la version acadienne, donc babylonienne, est la plus ancienne trace physique qu'on a retrouvée que c'est pour autant la version originale de l'histoire.
Oh, c'est fascinant ça. Laisse-moi essayer de formuler une comparaison, parce que c'est une idée vraiment puissante.
Vas-y.
Si demain je trouve un manuscrit très ancien de Shakespeare, disons dans des ruines à Berlin, et qu'il est écrit en allemand.
Ok.
Bah ça ne prouve pas que Shakespeare était allemand, ni qu'il a écrit la pièce en allemand. Ça prouve juste que c'est la copie la plus vieille que la Terre a bien voulu conserver jusqu'à nous.
C'est une excellente illustration. L'absence de preuve d'un texte plus ancien n'est pas la preuve de son absence. Donc, l'idée de Clay, c'est que les Hébreux n'ont pas forcément copié les Babyloniens.
Ils auraient une source commune.
Voilà. Les deux cultures auraient puisé dans un réservoir de traditions beaucoup plus anciennes, une source commune non retrouvée.
D'accord, je vois bien le tableau. Mais il y a un autre chercheur mentionné dans le cours, Gerhard von Rad, et lui, il va beaucoup plus loin, non?
Ah oui, von Rad, c'est une autre dimension. Lui, il fait remarquer qu'on trouve des histoires de déluge absolument partout.
Et quand on dit partout, c'est pas juste au Moyen-Orient, on en trouve chez les Indiens, les Perses, les Inuits, dans certaines tribus africaines et même dans les Amériques.
C'est ça. Et von Rad en conclut que si toutes ces cultures, si éloignées les unes des autres, racontent la même chose, c'est qu'il y a dû y avoir un cataclysme cosmique mondial dont toute l'humanité a gardé le traumatisme.
C'est l'explication par l'événement historique global. Ça paraît super intuitif, je dois dire. Très tentant comme conclusion.
Très tentant, oui. Mais le professeur Van Hoy introduit ici une nuance cruciale qui vient de l'anthropologie. Les anthropologues nous avertissent qu'il est hyper dangereux de faire un lien direct entre la fréquence d'un récit à travers le monde et sa réalité historique.
Ah bon? Pourquoi? Si tout le monde raconte la même histoire, il s'est forcément passé quelque chose de réel, non?
Pas nécessairement. Et pour le démontrer, les anthropologues utilisent l'exemple du conte du vol magique.
Le vol magique.
Ouais, c'est un récit classique où un héros est poursuivi par un ogre ou un monstre. Pour lui échapper, le héros jette par-dessus son épaule des objets ordinaires et ces objets se transforment en obstacles gigantesques.
Du style,
il jette une petite pierre, ça devient une montagne ininfranchissable. Il verse une goutte d'huile, ça crée un immense lac. Eh ben, ce conte spécifique avec cette mécanique ultra précise, on le trouve partout. En Asie, en Europe, en Afrique, chez les Amérindiens.
Ah, je crois que je vois où on va avec ça. Personne aujourd'hui ne va soutenir qu'à la préhistoire, il y a vraiment eu un gars qui a créé les Alpes en jetant un caillou derrière lui pour fuir un ogre.
Absolument pas. La conclusion, c'est qu'une histoire incroyablement captivante peut voyager par simple diffusion culturelle.
Le bouche à oreille sur des millénaires.
Voilà.
Les routes commerciales, les migrations. Le conte se répand parce qu'il répond à un besoin psychologique humain ou simplement parce que c'est une excellente histoire à raconter au coin du feu.
Donc, c'est l'équivalent antique d'un mème viral sur Internet, en fait.
C'est ça. Ça traverse les continents, non pas parce que c'est factuellement arrivé à tout le monde, mais parce que le code narratif est très contagieux. Ça, c'est un changement de perspective majeur pour aborder ces textes.
Tout à fait.
Mais finalement, que le déluge soit le souvenir d'un cataclysme local amplifié ou d'une catastrophe mondiale, la question centrale pour notre analyse biblique reste la même. Que fait le texte de Genèse de cette histoire?
Exactement, c'est le plus important.
Parce que quand l'eau se retire, enfin au chapitre 9, on ne reprend pas les choses là où on les avait laissées. C'est un monde totalement nouveau. Les règles de la réalité changent complètement.
Et le changement est radical. L'alliance noachique pose vraiment les fondations du nouveau monde. Dieu répète le mandat initial qui avait été donné à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre.
Mais l'ambiance a changé, non?
Complètement. L'atmosphère n'est plus du tout celle du jardin d'Éden. Il y a une pension nouvelle. Le texte dit que désormais, la crainte et la terreur de l'homme s'installeront chez tous les animaux.
Fini la cohabitation pacifique avec les lions et les agneaux.
Fini. Et cela s'accompagne d'un changement de régime alimentaire qui marque une vraie rupture. La viande est désormais explicitement permise pour la consommation humaine.
Et avant ça?
Le réformateur Jean Calvin, quand il commente ce passage, il fait preuve d'une grande prudence. Il dit qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que les humains étaient strictement végétariens avant le déluge, parce que ce serait un argument basé sur le silence du texte.
Ouais, on ne sait pas vraiment.
Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, la permission est officialisée par Dieu. Cependant, elle vient avec une restriction très forte.
Oui, l'interdiction de consommer la viande avec son sang. Ça, j'ai toujours trouvé ça hyper intriguant. Est-ce que c'est juste une règle d'hygiène primitive ou est-ce qu'il y a une mécanique spirituelle derrière?
Oh, c'est profondément spirituel. Le commentateur Gordon Wenham, qu'on retrouve dans le cours, explique que cette interdiction a une double fonction. D'abord, inculquer un respect pour le mystère de la vie.
C'est-à-dire?
Le sang, dans la pensée biblique, ça représente le principe vital. L'animal donne sa chair pour nourrir l'homme, d'accord? Mais la vie elle-même, le sang, appartient au Créateur. Ensuite, et ça c'est fondamental pour la suite de l'Ancien Testament, c'est une anticipation du système sacrificiel.
Ah, le système qu'on va retrouver plus tard dans le Lévitique.
Tout à fait. Dans Lévitique 17:11, il est dit très clairement que le sang est donné sur l'autel pour faire l'expiation des âmes. Le sang efface le péché.
Donc il a une fonction sacrée de rédemption.
Voilà. Donc, le banaliser en le consommant comme une simple nourriture, ce serait une profanation de l'outil même que Dieu réserve pour le salut.
D'accord, la mécanique devient super claire. Et si la vie animale est encadrée par ce respect du sang, j'imagine que la vie humaine passe à un tout autre niveau de protection.
Ok, oui.
Et là, je bloque un peu sur un point. Il y a un paradoxe apparent massif dans le texte.
Lequel ?
Dieu vient littéralement de détruire presque toute l'humanité de la manière la plus radicale qui soit.
C'est vrai.
Et pourtant, la toute première grande loi qu'il instaure en sortant de l'arche, c'est la protection absolue, sacrée, inaliénable de la vie humaine individuelle. Il instaure carrément la peine de mort divine pour le meurtre. Comment on réconcilie ce cataclysme d'un côté et cette nouvelle protection totale de l'autre?
C'est un paradoxe qui frappe beaucoup de lecteurs, tu n'es pas la seule. La résolution, en fait, elle se trouve dans le concept de l'imago Dei, l'image de Dieu.
Ok, dis-moi en plus.
Le texte justifie cette punition extrême du meurtre par une raison très précise. Car Dieu a fait l'homme à son image. Le déluge, c'était un jugement divin global contre une corruption totale. Mais dans ce nouveau monde, au niveau individuel, la vie humaine a une valeur inestimable parce qu'elle reflète le Créateur lui-même.
Donc, attaquer un être humain...
Attaquer un être humain, c'est porter atteinte à l'image du divin sur Terre. C'est considéré comme un crime cosmique.
C'est puissant. Et le cours mentionne que cela va fonder des principes politiques durables, c'est bien ça? Il y a un lien direct qui est fait avec les écrits de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament.
Oui, le professeur Van Orhaye connecte directement cela à Romains 13. C'est ici, dans la Genèse, que se trouve le germe biblique de l'autorité gouvernementale. L'autorité d'administrer la justice, y compris par ce que Paul appelle le pouvoir de l'épée, est présentée comme une autorité déléguée par Dieu aux institutions humaines.
Pour maintenir l'ordre ?
Pour maintenir l'ordre et protéger cette fameuse image de Dieu. Bien sûr, l'histoire montrera que les humains abuseront largement de cette autorité, mais le principe théologique de la justice humaine déléguée naît à ce moment-là.
C'est fascinant. Et pour garantir que ce nouveau monde, malgré ses règles hyper sévères, ait un avenir, Dieu instaure un signe visible, l'arc-en-ciel.
Le fameux arc dans les nuages.
L'alliance noachique, c'est ça ? Dieu promet de ne plus détruire la terre par les eaux. Et le texte utilise une phrase assez intéressante. Dieu met l'arc dans le ciel pour s'en souvenir. Van Orhaye prend le temps d'expliquer que c'est une expression anthropomorphique.
Oui, un concept important en théologie.
Encore un terme technique. Laisse-moi deviner. Anthropomorphique, ça veut dire qu'on prête à Dieu des traits ou des comportements humains pour qu'on puisse comprendre, parce que Dieu n'a évidemment pas besoin d'un post-it visuel dans le ciel pour éviter d'oublier sa promesse.
C'est exactement ça. C'est une figure de style condescendante, mais dans le bon sens du terme. Dieu descend à notre niveau de compréhension. L'arc-en-ciel, c'est la garantie visible pour nous que l'arène terrestre sera préservée. C'est le plateau de jeu stable, en fait, sur lequel tout le reste du plan de rédemption biblique va pouvoir se dérouler.
Tout est en place, quoi. Les règles sont fixées, la paix est garantie avec la nature. Mais cette paix ne va pas durer bien longtemps.
Malheureusement, non.
On arrive à la fin du chapitre 9, et c'est là que l'humanité retombe dans ses travers, et d'une manière assez sordide.
Noé devient cultivateur. Il plante une vigne, il s'enivre, et il s'effondre, nu, au milieu de sa tente.
Et c'est cet incident hyper intime qui va engendrer des conséquences géopolitiques majeures pour la suite. Cham, l'un des trois fils de Noé, entre dans la tente. Il voit la nudité de son père.
Et au lieu de le couvrir discrètement ?
Au lieu de le couvrir, il sort et va le raconter à ses deux frères, Sem et Japhé. Eux, ils prennent en vêtement, le mettent sur leurs épaules et marchent à reculons pour couvrir la dignité de leur père.
Sans porer les yeux sur lui.
Exactement. Je dois avouer que, pour un lecteur moderne, la réaction de Noé après coup semble un peu disproportionnée. D'accord, voir son père nu, c'est gênant, on est d'accord, mais de là à provoquer une malédiction historique, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette tente, hein ?
Il faut vraiment se replacer dans le contexte antique, de l'autorité patriarcale. Le chercheur Karlinda Ricks analyse l'action de Cham non pas comme un simple regard accidentel. Il décrit ça comme un étalage de sensualité éhontée et une rupture totale du respect filial.
Ah, donc c'est une vraie rébellion.
Oui. Cham semble s'être délecté de la vulnérabilité et de la honte de la figure d'autorité ultime de sa famille. Il en fait un spectacle en allant le raconter. Et Van Orhaye précise bien que le texte repousse les théories un peu farfelues qui voudraient que voir la nudité soit un euphémisme pour un acte sexuel déviant ou incestueux.
C'est pas ça du tout.
Non, l'offense est morale. C'est un profond mépris.
Très bien. Mais Noé se réveille, il comprend ce qui s'est passé, et là il prononce une malédiction qui me laisse toujours un peu perplexe. Il y a un truc qui cloche.
Qu'est-ce qui te chiffonne ?
Bah, le coupable c'est Cham, mais Noé maudit Canaan. Canaan, c'est le quatrième fils de Cham, donc le petit-fils de Noé. Pourquoi maudire le petit-fils qui, franchement, n'était probablement même pas dans les parages à ce moment-là ?
C'est une question très légitime et très débattue. Van Orhaye aborde cela en expliquant que cette malédiction ne doit pas être lue comme une simple crise de colère vengeresse d'un vieillard qui a la gueule de bois.
D'accord, c'est plus profond.
Elle est présentée comme une révélation prophétique inspirée par l'esprit. Dans la logique biblique, Noé perçoit la nature profonde de ce qui vient de se passer. Il voit que les traits de caractère néfastes affichés par Cham, ce manque de pudeur, cette sensualité tordue, ne vont pas s'étendre avec lui.
Ça va se transmettre.
Ça va se transmettre, s'amplifier et devenir la marque de fabrique d'une lignée spécifique, celle de Canaan.
Ah d'accord, on touche à la géopolitique biblique en fait. L'auteur de la Genèse prépare le terrain pour la suite.
Totalement. C'est un exercice de préfiguration littéraire et théologique. ça fait un écho retentissant à ce que les lecteurs israélites vont lire plus tard dans le livre du Lévitique au chapitre 18.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre ?
Des abominations tellement graves que la terre elle-même les vomit. Donc, la malédiction prononcée dans la tente de Noé, c'est l'explication originelle du conflit territorial et moral qui opposera plus tard les Israélites, descendants de Sem, aux Cananéens.
Mais là, laisse-moi t'arrêter. Parce qu'on arrive au point le plus critique de cette analyse, je pense. On ne peut pas parler de la malédiction de Cham ou de Canaan sans aborder l'éléphant massif dans la pièce.
Je vois très bien de quoi tu parles.
Ce passage précis a un héritage historique atroce. Pendant des siècles, l'idée de la fameuse malédiction de Cham a été brandie, tordue, manipulée pour justifier l'esclavage, et en particulier l'asservissement des populations noires, puis la ségrégation raciale.
Oui, c'est une tragédie exégétique.
C'est de l'interprétation qui a coûté des millions de vies. Alors comment le cours de Vanoa et les sources sur lesquelles il s'appuie abordent-ils cette instrumentalisation ?
Eh bien, pour être très factuel par rapport à nos sources, le cours l'aborde de front, en s'appuyant sur les travaux de l'anthropologue J.R. Buswell III, notamment dans son livre « Slavery, Segregation and Scripture ». Buswell déconstruit cette lecture brique par brique. Son objectif dans la source, c'est de montrer que l'utilisation pro-esclavagiste de ce texte ne repose sur absolument rien dans la Bible elle-même.
Comment Buswell démonte-t-il cette rhétorique concrètement ? Ce qu'il faut que ce soit clair pour notre auditoire.
D'abord, par la géographie et l'ethnologie basique. L'argument pro-esclavage prétendait que toutes les populations noires d'Afrique subsaharienne étaient les descendantes maudites de Cham.
Ok.
Or, Buswell, en étudiant les tables des nations bibliques, rappelle que les descendants historiques de Cham ont peuplé des régions très spécifiques, comme l'Égypte antique ou certaines parties de l'Éthiopie. Et c'est un fait anthropologique, ces populations n'étaient historiquement pas considérées comme des populations de type nègre.
C'est le terme historique utilisé dans la source, c'est ça ?
Oui, c'est le terme historique précis, utilisé dans les débats de l'époque et cité par Buswell.
Attends, donc la base même de leur théorie s'effondre. Prendre les caractéristiques physiques des personnes noires d'Afrique de l'Ouest ou centrale et les lier artificiellement à cette histoire biblique ?
C'est ce que Buswell qualifie d'idée absolument fantastique, mais au sens propre du terme. C'est un fantasme total, une pure invention. Il n'y a aucun fondement historique à ce lien.
C'est fou.
Et ensuite, le second argument de Buswell, il est textuel. Comme on vient d'en débattre, Noé n'a même pas maudit tous les descendants de Cham. Il a maudit spécifiquement Canaan.
Ah oui, c'est vrai. Et où les descendants de Canaan se sont-ils installés ?
Au Proche-Orient. Dans la région la future Palestine, pas du tout en Afrique. Donc, selon Buswell, l'application de ce texte aux populations africaines relève soit d'une ignorance tragique, soit d'une malveillance cynique pour justifier un système économique oppressif.
C'est sidérant. On touche vraiment ici à une leçon vertigineuse. On voit comment un texte antique, ancré dans un contexte tribal et géopolitique du Proche-Orient, avec les Cananéens et les Israélites, peut être arraché de ses racines des millénaires plus tard.
Et complètement tordu.
Et une fois arraché, il est transformé en arme de destruction massive pour justifier les pires injustices de l'ère moderne. Ça prouve à quel point la rigueur textuelle, l'étude du contexte, c'est pas juste pour briller dans un salon intellectuel, c'est littéralement une barrière contre la manipulation humaine.
C'est la conclusion la plus importante de ce segment, je suis bien d'accord. Lire un texte sans comprendre la réalité historique, géographique et culturelle qu'il décrit, c'est super dangereux. Et l'analyse de nos sources, via Buswell, montre que le texte biblique, lu honnêtement, n'offre aucune couverture à ces idéologies.
Fou, c'est un voyage incroyable que nous venons de faire aujourd'hui. Si on retrace un peu le fil, on est parti de ces plans colossaux de vaisseaux de survie, des histoires qu'on partage avec les Babyloniens.
Mais avec une logique interne radicalement différente, rappelle-toi. Le fameux corbeau de Noé contre la colombe d'Utnapishtim.
Exactement. Ensuite, on a vu l'instauration d'un monde nouveau sous le signe de l'arc-en-ciel, où la vie humaine devient intouchable parce qu'elle porte l'image divine.
C'est ça, la fondation de la justice.
Et pourtant, malgré toutes ces belles promesses, on termine notre parcours dans l'obscurité d'une tente, face aux prémices des grands conflits humains et à la façon tragique dont les textes sacrés peuvent être corrompus par ceux qui les lisent.
Ça montre toute la densité de ces premiers chapitres de la Genèse. On y trouve à la fois le récit d'une recréation totale du monde par Dieu et l'analyse sans aucun filtre des failles inhérentes au cœur de l'homme.
Eh ben, en parlant de ces failles, j'aimerais conclure avec une dernière réflexion. un truc qui me travaille depuis le début de cette exploration.
Ah, je t'écoute.
L'objectif premier du déluge, selon le texte, c'était de laver la terre de la corruption, de repartir avec une ardoise complètement vierge, tu vois ?
Ouais, un reboot total de l'humanité.
Mais pourtant, dès que l'eau se retire, dès que les passagers posent le pied sur une terre censée être purifiée, la première grande action humaine qui nous est racontée, c'est l'ivresse. C'est une humiliation filiale, une fracture familiale irréparable et une malédiction.
C'est sombre dit comme ça.
Mais ça pousse à une conclusion particulièrement troublante pour ceux qui nous écoutent. On peut nettoyer le monde entier avec un océan de jugement, mais on ne peut manifestement pas noyer la nature humaine.
Ah, ça, c'est très vrai.
La même complexité, les mêmes ténèbres étaient là, cachées à bord de l'arche, attendant simplement que le sol sèche. Et ça, c'est un point de départ vertigineux pour quiconque souhaite explorer les mystères de la condition humaine par soi-même.
Une belle réflexion pour terminer.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée. Merci à toi pour tes éclairages. Et à la prochaine.